Interview exceptionnelle aujourd'hui, puisqu'on va la faire avec un mort. Enfin bon, presque, puisque l'armée russe l'annonçait comme étant mort, et bien surprise, eh bien, ils se sont trompés. Il ne l'est pas. Il a été surnommé le sniper aux 40 morts par jour, celui qui a tué un général à 1500 mètres de distance, ou encore il est un sniper légendaire. D'ailleurs, il préfère dire qu'il est simplement un bon soldat. Il est actuellement en Ukraine. Je suis donc très heureux d'avoir avec nous Wally. Adisias, Wally.
Bonjour, Adisias.
Avant de commencer, Wally, je vais préciser donc deux petites choses. On ne va évidemment pas donner ta localisation actuelle précise, ni ta véritable identité pour des raisons évidentes de sécurité.
Voilà.
Alors déjà, Wally, comment ça va?
Ça va super bien, là. Un bon moral, en fait, c'est presque le problème qu'on a trop un bon moral. On s'ennuie un peu parce que, étant dans la région de Kiev, là, on va le dire, gagner la bataille de Kiev. Donc, si on regarde sur les cartes officielles, on voit qu'il n'y a plus de forces russes dans la région de Kiev et même jusqu'à la frontière là, au nord-est. Il y a quelques petits groupes encore qui sont de Russes abandonnés par leur propre armée, mais il y a évidemment des zones où il y a encore des dangers parce qu'il y a des pièges, des booby-traps, etc. Donc, je pourrais dire, la guerre n'est pas finie à Kiev non plus. Il peut y avoir des bombardements, mais c'est très, très, très calme. C'est très confortable. Ma vie est très confortable en ce moment et très peu risquée.
Alors, on va évidemment reparler un peu plus tard dans cette interview, qu'on va vraiment prendre le temps d'expliquer ton parcours, ce que tu fais en ce moment, ce que tu as vu aussi, qu'on va reparler un peu plus tard de la situation justement de l'Ukraine, de là où on en est à l'heure d'aujourd'hui. Mais déjà, peut-être pour donner un peu de contexte, Wally, qui c'est Wally? Quel est un petit peu son parcours?
Ouais. En résumé, 40 ans, je suis un ex-militaire, donc j'étais militaire de carrière dans les forces canadiennes avant. J'ai été cadet aussi avant l'armée, cadet de l'air, donc j'ai eu mes licences de pilote à ce moment-là. Dans l'armée, j'ai fait 3 ans d'artillerie pour commencer, et ensuite de ça, j'ai joint le Royal 22e Régiment. Ensuite de ça, je suis devenu tireur d'élite, déployé comme tel, comme tireur d'élite en Afghanistan, dans la région de Kandahar en 2009. D'ailleurs, j'ai écrit un livre à ce sujet, Mission tireur d'élite. Donc, on peut retrouver là, livrewally.com, livre avec un S. Et il y a aussi des informations sur ma page, là, mon blog, La Torche et l'Épée, qu'on peut trouver sur Facebook. Mais voilà, donc j'étais à Kandahar comme tireur d'élite. C'était vraiment, je pourrais dire, une très belle aventure, là, malgré le danger et les situations qu'on a eues. Mais donc, ça a commencé là, mon premier déploiement. Donc, deuxième déploiement, Afghanistan encore, beaucoup plus tranquille. Un long déploiement, mais tranquille, mais utile par contre, et intéressant. Et ensuite de ça, en 2015, je n'étais plus dans les forces canadiennes. Donc, j'ai quitté au printemps 2015. Et ensuite de ça, presque immédiatement après, j'ai joint les Peshmerga au Kurdistan contre l'État islamique. Donc, ça a été très violent, très intéressant aussi comme conflit. J'ai fait plusieurs mois là. Après ça, je suis revenu. J'ai transigé. D'ailleurs, j'avais fait un documentaire à l'époque qui s'appelle Parmi les héros. Il y a aussi l'ONF qui a fait une. Qui a couvert mon expérience en grande partie. C'est pas juste sur moi, le documentaire de l'ONF, ça s'appelle Ma guerre, qu'on peut retrouver d'ailleurs gratuitement en ligne, mais bref, on m'y voit à de nombreuses reprises. Ensuite de ça, j'ai transigé vers une autre carrière, donc comme informaticien, plus précisément comme programmeur. Et là, je suis dans l'industrie de la crypto-monnaie, en fait, là, blockchain, en fait, crypto-monnaie, blockchain. Donc, je fais du code là, pour ces industries-là. C'est vraiment très passionnant, pour être bien fait. J'aime bien ça. Et là, me voici. Il y a 2 mois, je codais, mais maintenant, j'appuie sur la détente de nouveau.
Qu'est-ce qui a fait justement que voilà, tu es passé voilà, par quand même de nombreuses phases. Tu disais voilà, cadet, donc déjà il y avait un petit peu cette passion du militaire quand même, qu'on veut une longue chez les cadets, notamment cadets de l'air. Tu disais artilleur, tu as été en Afghanistan, tu as été tireur d'élite, tu as aussi été, on peut en parler, c'est ce qui a aussi d'ailleurs, tu as permis aussi toi de faire aussi ton propre documentaire aussi au Kurdistan, tu as été aussi photographe militaire, donc tu as aussi fait des livres sur ça aussi, programmeur. Et maintenant, donc, tu reviens à ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, là, où il y a 2 mois, grosso modo, tu as eu un switch qui a dit, je pars. Surtout qu'en plus, ta situation même personnelle a changé aussi.
Donc, il faut comprendre que ma vie est relativement facile, ma vie civile. Donc, je suis un programmeur, j'ai un bon salaire, j'ai aucune dette, une femme, un jeune enfant, maison, en santé. Donc, c'est très facile pour moi, pour être honnête. Le pourquoi que j'ai été, c'est une raison assez évidente. En fait, je suis surpris à chaque fois qu'on me pose la question parce que la réponse me semble me semble contenu dans la question elle-même, tellement que c'est évident. C'est comme dire pourquoi défendre l'Europe face aux nazis. Donc, ai-je besoin de m'expliquer? Mais je vais le faire quand même.
Peut-être pour toi, c'est évident, mais il n'y a pas de 36 millions de Canadiens qui sont venus combattre
Oui,
en premier
ben,
Canadien. Donc,
en fait,
pourquoi toi, tu vois?
ouais, ben, c'est une bonne observation parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'aidais des gens à venir ici, joindre le combat, mais ces personnes-là ont abandonné à la dernière minute, on pourrait dire. Donc, c'est pas facile, là, là. Penser de vouloir y penser, à y aller pour de vrai, c'est une grosse étape. Okay? C'est immense l'étape. Il y a beaucoup de pression pour ne pas y aller. Souvent nos proches ou simplement nous qui ne voulons pas y aller. Par exemple, on peut avoir des. D'un point de vue financier, il faut quand même payer pour les dépenses. Donc, ici, on n'est pas payé. Donc, on est nourri, logique, etc. Mais je veux dire, on ne reçoit aucune solde. Donc, à la limite, ça nous coûte de l'argent parce qu'on doit se rendre ici. Donc, pendant ce temps-là, les obligations financières continuent. Donc, il y a cette pression-là aussi. Et il y a évidemment la pression du danger qui est immense. On a eu des combattants ici qui ont abandonné là, en pleurant. C'est très, très, très dangereux. Il y a des pertes aussi, d'ailleurs, de chaque côté. Mais tout ça pour dire que entre supporter la guerre en Ukraine et y aller, c'est deux mondes complètement différents. Je dirais qu'il faut être convaincu. C'est une question de conviction, hein. Est-ce que tu y crois vraiment? Mais quand c'est le temps d'y aller, c'est là que tu réponds à cette question-là de façon vivante.
Alors, justement, qu'est-ce qui a fait que pour toi, la réponse était positive? Oui, c'est quelque chose qui me paraît normal, comme tu disais, qui est normal, même que tu réfléchis même pas, c'est normal. Parce que voilà, on parlait d'Afghanistan, c'était normal. Voilà, il y avait les talibans qui étaient là. Bon, c'était logique. En plus, tu étais soldat à l'époque. Mais après, quand tu es parti, toi, en tant que combattant volontaire, tu es parti au Kurdistan. Là, c'était ta volonté, j'allais dire, c'était logique aussi. C'était Daesh qui était en face, c'était pas une armée régulière. Bon, ça paraissait logique, somme toute, mais là, en face, c'est une armée régulière. C'est les Russes qui sont là.
Oui, c'est aussi le fait que j'avais déjà une expérience qui pouvait être utile. J'ai du mal à ne pas répondre à un appel ou devoir, si je peux dire. Je pourrais dire, sans paraître arrogant, et que j'ai un certain sens du devoir. Disons, mes convictions, d'habitude, je pense que je prouve que j'ai des convictions. Je vais essayer de faire un petit ma part. Donc, je dirais que, par contre, j'abandonne pas ma famille derrière. Je suis pas une espèce de tête brûlée qui ne pense qu'à la guerre. J'aime à dire que j'ai trois niveaux de devoir, je peux dire, devoir envers ma famille, ma communauté, envers l'humanité en entier. Donc, en ce moment, ce que je fais, c'est, on pourrait dire, ma contribution à l'humanité, dans un sens. Et par contre, éventuellement, il faudrait que je prenne soin de ma famille aussi. Donc, c'est un équilibre, tout simplement. Donc, voilà.
Et c'est vrai que justement, tu parles d'équilibre de travail-famille d'une certaine façon. C'est vrai que on le sait, quand un soldat est déployé, que ce soit en Afghanistan ou bien sûr qui fait d'autres tours ailleurs, le support de la famille est très important. Quand tu es parti aussi en Irak, bon, c'était différent, mais c'est important aussi. Là, tu as vraiment une vie de famille. Ce support-là pour toi, que ta famille finalement te dise oui, tu peux y aller, c'est quelque chose qu'il te fallait absolument.
Non, il faut pas absolument, mais ça aide grandement. En fait, ce n'était pas un oui clair, c'était plus un non oui,
D'accord.
ou plutôt un oui non. C'est oui, on comprend, mais non, vas-y
Ok, d'accord. Ok, bon, c'est clair. Est-ce que justement, voilà, on le disait, c'est vrai que là maintenant, cette guerre est quand même assez particulière. On va en reparler après en parlant de la situation sur le terrain. Est-ce que tu vois, tu sens la différence entre ce que tu as fait en tant que soldat en Afghanistan, ce que tu as fait en tant que combattant volontaire au Kurdistan et ce que tu fais là en tant que combattant militaire en Ukraine?
Donc, les différences dans la guerre, je pourrais dire, dans les opérations. Oui, absolument. Donc, c'est évident qu'il y a chaque guerre est différente. Souvent, les soldats ukrainiens me posent souvent des questions sur mon expérience passée. J'ai décelé que souvent l'opinion, la perception, c'est que l'Afghanistan et le Kurdistan sont semblables, étant donné que c'était contre des groupes islamiques fanatiques et que c'était un peu comme dans le désert. Donc, souvent, la perception est que c'était semblable, alors que c'était complètement différent. Kurdistan est une guerre conventionnelle avec un front, une ligne de front, opération offensive conventionnelle, etc. Afghanistan, c'est une contre-insurrection. Par contre, il y avait des apparences de guerre conventionnelle selon certains secteurs. Par exemple, il y avait des secteurs qui étaient tellement contrôlés par les talibans qu'il fallait les prendre de force un peu de façon comme une opération standard, là, donc en avançant avec des troupes qui en prennent un contrôle, je pourrais dire conventionnel. Mais en général, c'était pas un conflit qu'on pourrait dire conventionnel, c'était une contre-insurrection. Par contre, en ce moment, en Ukraine, je dirais que principalement deux différences. La première, c'est vraiment le terrain qui est européen, évidemment. Donc, c'est un peu comme se combattre dans un environnement, c'est un peu comme combattre à la maison. Donc, c'est un peu surréel, des fois, les scènes qu'on je vais y revenir. C'est la première différence. Mais la deuxième différence, évidemment, c'est un conflit conventionnel contre ce qu'on disait il n'y a pas si longtemps comme étant la deuxième armée au monde. Donc, la différence, c'est ça, c'est le niveau, je dirais, de puissance de feu que l'ennemi a à sa disposition. Là, on s'est fait tirer une quantité de projectiles, d'obus, etc. Juste pour un exemple, la première patrouille qu'on a faite, on était à Erpine, donc c'est la fameuse ville Erpine qu'on entend parler aux nouvelles, qui est à côté de Butcha. D'ailleurs, Butcha, Erpine sur la carte, c'est un peu comme la même ville. C'est un peu comme, par exemple, je sais pas moi, je vais donner un exemple au Québec, c'est un peu comme la ville de Québec et Sainte-Foy, pour ceux qui connaissent. Par contre, en plus petit, c'est plus petit que la ville de Québec, mais Sainte-Foy ne semble pas être une ville différente pour quelqu'un qui arrive à Québec et ne connaît pas cette réalité. Donc, c'est un peu la même chose. Sur la carte, c'est un peu comme la même ville. Par contre, Butcha était de l'autre côté, donc dans la zone occupée russe. Erpine était plutôt la zone contestée. Tout ce qui est les crimes, etc., on entendait parler. Donc, on avait beaucoup d'informations qui arrivaient de toutes parts, des civils, etc. Par contre, un peu comme dans la Deuxième Guerre mondiale avec les Allemands et les nazis effectuaient des crimes en arrière du front et non au front, parce qu'évidemment, au front, il y a des activités militaires. Le focus, je pourrais dire, est sur la conquête, donc, ou la défense, ou peu importe, et non sur des activités. Il y a des crimes sur la ligne de front, mais sont moins nombreux, souvent et moins, évidemment, organisés et grands en quantité, évidemment, parce que c'est difficile de commettre des crimes si t'es une force armée juste de l'autre côté de la rue, hein? Mais bon, donc c'est ça. C'est à Butcha des crimes. On entendait parler, mais au début, je pensais que c'était de la propagande parce que je trouvais ça tellement exagéré. Par exemple, je savais que les soldats russes se saoulaient souvent. Donc, la morale n'était pas très élevée. Donc, ils se saoulaient et ce qu'on entendait, c'est qu'ils tiraient vers les enfants qui pleuraient pendant les explosions. Donc, souvent, par exemple, ils étaient sous et ivres et ils entendaient des enfants pleurer dans les maisons, donc ils tiraient dans les fenêtres des maisons. Des histoires comme ça où là, on a appris qu'il y avait aussi des exécutions, là, surtout envers les personnes, on pourrait dire les notables de la ville, donc beaucoup les enseignants, évidemment, tous ceux qui étaient au pouvoir. Donc là, on a appris, je pense, la famille du maire qui a aussi été exécutée, là. Il y a un paquet d'exécutions, de paquets. On entendait beaucoup d'informations sur ça. Par contre, on les voyait pas parce que c'était en zone occupée. Donc, on voyait la ville. Donc, la ville ressemblait à une ville fantôme. La nuit, c'était complètement noir. Quelques incendies couverts de fumée, une ville triste, mais une ville qui semblait vide, mais qui était en fait couverte de crimes déjà. Mais pour revenir un peu à l'aspect militaire personnel, donc la première patrouille qu'on a faite, qui va bien illustrer le niveau de violence, je peux dire, on était donc dans un immeuble, et là, je passe un peu des détails, il y a d'autres choses qui se sont passées, mais je vais quand même résumer. Donc, on était dans un immeuble résidentiel, abandonné en très grande partie. Et l'immeuble était partiellement en feu. Il y avait eu déjà des combats, donc il fallait s'approcher de l'ennemi pour, on pourrait dire, tenter le terrain, on va dire ça comme ça. Donc, l'appartement où on était situé avec d'autres tireurs d'élite c'était moderne. Donc, une machine à café, une télévision, des belles tuiles, beau plancher, des beaux meubles. Le linge sentait encore le parfum. Donc, très moderne, très occidental, parce qu'il faut comprendre que Erpine, c'est en partie moderne. Il y a de la pauvreté encore, des vieux bâtiments soviétiques plutôt pauvres, mais tu peux avoir des beaux bâtiments très, très modernes, très récents, juste en face. Et donc, on était là. Il y avait des trous de balles dans les fenêtres, mais c'était sans plus. Évidemment, comme tireur d'élite, je faisais attention de pas bousculer rien, par exemple, tout ce qui est tout ce qui est des fenêtres. Les rideaux, etc. Donc, je voulais pas bouger rien parce que ça pouvait me faire détecter. J'ai bien fait parce que une quinzaine de minutes après notre arrivée, un char d'assaut russe qui s'est mis à engager par hasard, on croit. Je crois qu'il savait qu'on était dans ce secteur, mais il savait pas précisément. Donc, le premier obus a touché environ 3 mètres de moi. Donc, j'ai vu la boule de feu, là, très clairement, la vitre éclater, etc. Ça en est suivi de d'autres tirs de chars d'assaut et de tirs d'armes individuelles. Les soldats russes étaient dans une cinquantaine de mètres en avant de nous. Il y était plusieurs dizaines là, de soldats. On était 6, je crois. Donc, c'était assez chaud. Donc, c'était assez violent. On a eu un blessé à l'occasion. Heureusement, on n'a pas eu plus de pertes. Donc, il a fallu quitter parce qu'évidemment, les Russes sont avec les tirs, on entendait qui nous encerclaient. Donc, mon analyse, c'est qu'ils sentaient qu'on n'était pas si nombreux. Là, évidemment, la guerre, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de perceptions, beaucoup de rumeurs. Donc, c'est mes perceptions. Mais ça, bref, ils étaient nombreux juste parce que les tirs étaient quand même assez nombreux. Mais donc, on sentait qu'ils nous encerclaient. C'est l'information aussi que j'ai, que les autres soldats ont vu aussi. Donc, après ça, on a dû quitter. Il y a eu des échanges de feu, etc. J'ai un collègue qui a dû tirer une RPG. Donc, c'est les fameux lance-roquettes, là, style soviétique. Je crois deux fois, je crois, ou deux ou trois fois. Ensuite, on a pu s'échapper, mais ça a été extrêmement violent. C'était la première patrouille qu'on faisait à Erpine. Puis, s'en est suivi d'autres situations semblables. Okay? Par exemple, ça, c'est un projectile qui vient d'un BMP-3, qui est un véhicule blindé soviétique, qui est équipé d'une espèce de mitrailleuse qui tire ce genre de projectile-là, et d'un canon aussi qui va tirer des obus. Mais ces obus-là, on voit ce petit obus-là de 30 mm perce les murs comme une aiguille, là, okay? Des murs de béton de plusieurs pieds, parce que les bâtiments soviétiques sont souvent de basse qualité, mais au moins ils sont robustes. Donc, les murs étaient traversés comme des aiguilles. Ça faisait éclater le béton autour de nous. On était souvent entourés des impacts, donc comme ça, autour de nous, littéralement. Puis la fumée, il y avait une espèce de fumée de béton qui après ça, qui était autour de nous. Donc c'était extrêmement violent. C'est arrivé à plusieurs occasions que les Russes ont tiré aussi des missiles, énormément d'artillerie. Souvent ça peut être une journée complète là, de façon quasi ininterrompue. Des fois c'est l'artillerie aussi très souvent tirait sur notre propre position. Donc ça causait un paquet d'incendies autour dans le secteur, dans notre bâtiment, sans parler des dégâts, des éclats, etc. Donc c'était quand même une espèce de c'était quand même un violent. Donc voilà.
Ouais. En tout cas, on sent que tu es aussi passionné par ce que tu dis. Vraiment, tu décris, tu donnes aussi aux gens d'ailleurs qui peuvent pas voir ou qui peuvent pas entendre, qui t'es pas là, tu leur expliques, voilà, tu donnes le goût, tu donnes ça, tu fais vivre un petit peu avec les cinq sens, un petit peu, voilà, ce que tu as vécu. On va marquer une courte pause musicale, Wally, on va se détendre un petit peu après tout ce que tu viens de nous dire. Une courte pause musicale et on se retrouve de suite après, donc pour aller un petit peu plus loin dans notre interview.
Є небуття, то що ви отаман, із присала запалює люльку, а за ним піднімаються бої скрізь, бо завчили козацьку науку. Ой, напаснику лютий, ти не лізь, під козацьку розмашисту руку. Ой, з нашого року не качайте воду, ой, з нашого року. Ось до нашої слави не робіть забави, не робіть забави, світові на світ, бо козацька вдача, як вогонь гаряча, бо козацька сила, не одних посила.
Voilà, de retour, toujours avec donc Wally depuis l'Ukraine pour nous parler un petit peu de son expérience, de ce qu'il voit et ce qu'il vit en ce moment. Wally, là, tu nous décrivais un petit peu donc ton entrée en matière et quelle entrée en matière un petit peu lorsque tu es arrivé directement en Ukraine. Mais peut-être on va rappeler justement comment tu es arrivé là. Qu'est-ce que ça a pris justement pour tu disais que voilà, toi, ta décision a été rapide finalement pour décider que tu y allais. Tu allais aider, mais ça se fait pas comme ça, un claquement de doigts. Je prends une arme dans l'avion, puis merci, bonsoir, et j'arrive en Ukraine. Il y a tout un processus aussi pour intégrer, pour pas faire les choses que les Ukrainiens pensent que tu es ennemi aussi.
Oui, donc cet aspect-là est souvent méconnu du grand public, je dirais. Beaucoup de gens s'imaginaient, je recevais des messages presque le lendemain que j'étais parti, comme quoi ils se demandaient combien de rues j'avais tiré. La guerre est plus compliquée que ça, là. C'est pas juste, le simple fait de rejoindre une ligne de front dans une zone de guerre n'est pas simple pour des facteurs humains, logistiques, etc. Donc, la première étape, faut comprendre qu'on était, je crois, le premier groupe à y aller. Donc, on était trois Canadiens et je crois peut-être une douzaine de Britanniques rejoints par des contacts qu'on a aidés à passer la frontière, mais on improvisait, hein, parce que la rapidité était plus importante que la perfection d'exécution. Mais en résumé, c'est très simple. On atterrit en Pologne. Dans mon cas, on a dormi dans un Airbnb,
Pas
comme
mal.
des touristes. Comme des touristes, là, la même chose, mais dans la chambre, il y avait des équipements pseudo-militaires, donc des bottes, un peu d'équipe, des jumelles. Donc, ça fait une ambiance un peu différente. C'était pas très festif, je pourrais dire. Mais bon. Donc, on est en Ukraine, en Pologne. Donc, après ça, on va chercher on va chercher mon collègue canadien, donc un autre volontaire, à une gare. Après ça, on se dirige vers un autre aéroport pour chercher des amis britanniques. Puis, bref, on avait déjà des contacts. Donc, on a pu organiser un transport jusqu'à la frontière. Le déplacement ressemblait un peu comme à des réfugiés illégaux. Donc, moi, les Canadiens, on était dans un Jeep. Puis, on avait les Britanniques qui étaient dans un autre véhicule, une espèce de vanette, un peu comme des réfugiés empilés en arrière. Et à un certain point, la police polonaise nous cherchait ou je sais pas quoi. Bref, ils nous ont retrouvés. Moi, j'étais en arrière, ils nous ont ouvert la porte, puis là, avec la lampe de poche, ils ont vu les soldats britanniques avec l'équipement. Ça ressemblait à une bande de réfugiés illégaux qui se faisaient capturer. Mais bon, en même temps, il faut comprendre que la paix était, comment je peux dire, la guerre était récente, donc tout le monde était un peu en mode adaptation. C'était nouveau aussi pour les Polonais de voir une bande de soldats comme ça se lancer vers l'Ukraine. Donc, eux-mêmes ont été un peu surpris, mais ensuite nous ont laissé passer parce qu'ils comprenaient évidemment la nécessité. Ils nous ont même aidés, en fait. Ils nous ont guidés un certain temps. Et rendu là, on était à une frontière, mais curieusement, on a eu des problèmes bureaucratiques parce qu'on pouvait pas, les Britanniques ne pouvaient pas passer à pied parce que la frontière ne le permettait pas d'un point de vue administratif. Donc, aussi bête que ça. Il a fallu voyager quelques heures la nuit pour aller rejoindre un autre poste. Donc, on a traversé. La première chose qui m'a frappé, c'est comment les soldats nous accueillaient bien. Donc, plutôt que de nous accueillir avec des missiles, on nous accueillait avec des sourires, des poignées de main. Après ça, on s'est rendu à Lviv, qui est une ville très proche de la frontière polonaise. Et cet endroit-là, c'est un peu l'endroit où tous les journalistes étrangers, où beaucoup de gens, beaucoup de réfugiés aussi vont. C'est une ville plus reculée, qui n'est pas exposée à la guerre beaucoup, à part quelques petits bombardements, mais c'est quand même relativement normal la situation. Donc, on a eu ce qu'on appelle une safe house, qui est des services de sécurité nous ont fourni un appartement assez, assez déprimant, un appartement soviétique. D'ailleurs, à un certain point, il y a eu une Ukrainienne, une madame ukrainienne qui nous a dénoncé parce que les soldats britanniques faisaient beaucoup de bruit. C'était des jeunes soldats, donc c'était un peu une espèce de fête dans l'appartement. Donc c'était assez cocasse. Donc, à un certain point, quelqu'un a cogné à la porte de façon assez insistante. J'ai été ouvrir la porte, c'était une équipe tactique, donc SWAT ukrainien, parce que... Donc, c'est ça, une zone de guerre, c'est chaotique. Donc, les forces de police n'étaient pas au courant de notre situation. Donc, ils ont assumé qu'on était des Russes. Donc, c'est moi qui ai ouvert la porte. Donc, j'ai vu tous les casques noirs avec les armes, etc. Je pense qu'ils ont tellement été surpris de ma réaction un peu comme calme, je pourrais dire, que eux-mêmes ont resté figés. Donc, c'est moi qui les a comme presque invités. J'ai fait signe, OK, ben entrez et faites votre travail.
Faites-le chez vous.
Mais mon cerveau a analysé très vite la situation. Dès que j'ai ouvert, que j'ai vu les soldats armés, mon cerveau a tout de suite compris que, étant donné que c'était des uniformes officiels et qu'on était quand même à Lviv, les chances que c'était des agents russes qui voulaient nous assassiner étaient faibles. Donc, j'ai tout de suite été en mode de ne pas résister, évidemment, parce que si j'avais fait un geste brusque, j'aurais pu simplement me faire abattre. Donc, j'ai levé les mains très tranquillement et je leur ai fait signe avec un sourire de faire leur travail. Et ensuite de ça, j'ai été plaqué contre le mur. Ils me parlaient en russe. Donc, j'imagine qu'avec ma barbe, je ressemblais à une espèce de Tchétchène ou je sais pas trop, mais bref, tranquillement, j'ai pu leur expliquer que j'étais du Canada, j'avais un passeport. Et je dirais 10 minutes plus tard, on était tous les meilleurs amis du monde. Donc, dans l'appartement, c'était assez drôle. On a passé de avoir des armes pointées vers nous à on discute de l'équipement tactique, les bottes, les couteaux, les armes, etc. Donc, donc ensuite, on n'a pas été capable d'obtenir des armes à ce point-là. C'était supposé être le cas, mais on n'a pas réussi, donc c'était compliqué. Et déjà, sur les médias sociaux, il y avait des nouvelles comme quoi le meilleur tireur d'élite de l'univers, presque, était en Ukraine et qu'il avait déjà battu je ne sais point combien de Russes, alors que dans la réalité, une équipe tactique avait fait l'assaut dans mon appartement et je cherchais encore à trouver une arme de base de soldat. Ça, c'est la réalité. Donc, on est loin du scénario où on atterrit en Ukraine et 5 minutes plus tard, on est dans une tranchée avec un lance-roquettes. Donc, à ce moment-là, il fallait prendre la décision. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste en arrière et on attend d'être armé au complet ou est-ce qu'on rejoint la ligne de front sans équipement, sans armes, etc. On a pris cette décision-là après, je crois, 3 nuits. Donc, on s'est dirigé vers la. Là, on a séparé le groupe en deux. Donc, les Britanniques n'avaient pas de véhicule. Donc, une chose étonnante dans cette guerre, c'est que les trains fonctionnaient bien. Donc, on avait eu l'information que les trains n'étaient pas bombardés et qu'ils pouvaient quand même fonctionner relativement bien. Donc, les Britanniques ont pris le train jusqu'à Kiev. Nous, le groupe de Canadiens, on a été en véhicule jusqu'à l'est du pays, au milieu du pays, je dirais environ. Et la route a été assez, je dirais, chaotique. Très rapidement, peut-être 2 heures de route à l'est de Lviv, déjà, il manquait de nourriture. Donc, il y avait des espèces de régions où la nourriture manquait. Et il faut comprendre qu'en Ukraine, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des checkpoints, donc des points de contrôle qui sont extrêmement nombreux. Et ça, c'est très compliqué parce qu'on n'avait pas les papiers en règle. Donc, on avait nos passeports, etc. Donc, c'était compliqué, là. À chaque fois, tout au long de notre déplacement, on voyait des postes de contrôle qui étaient prêts à nous abattre. Et évidemment, on avait de l'air louche, suspect. Donc, c'était un interrogatoire à chaque fois. Et c'était le même, je pourrais dire, la même séquence à chaque fois. Donc, des regards très sévères, très, je pourrais dire, menaçants. Beaucoup de questions, et dès qu'ils savaient qu'on était là pour les aider, qu'on arrivait du Canada, donc on était encore là, le regard menaçant était remplacé par des sourires, des poignées de main et des photos, évidemment. Et souvent, ils nous amenaient même, ils nous nourrissaient. À un certain point, on manquait d'essence, parce qu'il faut comprendre c'est une des raisons pourquoi les voitures sont abandonnées, parce que les gens fuient, mais ils n'ont plus d'essence. Donc, là, c'est un choix à faire. Donc, soit à un certain point, les gens abandonnaient leur véhicule. Et nous aussi, on n'avait presque plus d'essence jusqu'à un certain point. Et ce qu'on a fait, c'est qu'une milice nous a aidés en nous fournissant de l'essence réservée aux militaires. Donc, il y avait des rationnements. Donc, on a pu se rendre jusqu'à la zone. On n'avait pas au front, parce qu'un front, c'est pas. Faut comprendre qu'une guerre, c'est pas. T'avances et soudainement. Il y a une tranchée là, et les Russes il y a une zone militarisée, donc etc. etc. Donc on a joint une unité, plusieurs unités. Il fallait naviguer un peu dans toute cette complexité, je pourrais dire, de gouvernance humaine, etc. Parce qu'un des défis quand on est dans une zone de guerre aussi, surtout comme volontaire, c'est de gagner la confiance des autorités locales. Surtout, tout se passe de façon très locale. Donc il faut que les responsables sur place nous fassent confiance.
C'est ça, c'est parce qu'ils ont déjà à gérer leurs propres soldats, leurs propres humains,
Exactement.
etc. Et vous arrivez en plus de ça. Et la question, c'est comment les gérer, qu'est-ce qu'on fait avec
C'est
eux?
ça. Ben, en fait, Zelensky avait lancé l'appel aux vétérans, etc. Par contre, cet appel aux armes, je pourrais dire, n'avait pas été traduit par des directives claires et concrètes au leadership. Donc, sur le terrain, les officiers ne savaient tout simplement pas quoi faire. Est-ce qu'il fallait nous enregistrer? Est-ce qu'il fallait nous armer ou pas? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui s'en viennent? Et on était les premiers, je crois, dans ce groupe-là. Il y avait d'autres volontaires un peu, peut-être, qui avaient rentré ou déjà présents. Mais bref, dans notre cas, on était vraiment les premiers. Donc, il y avait une confusion. Petit à petit, par contre, on a pu parler à des commandants. On a pu aller dans la zone de front. Très 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 proche du front, par contre pas à l'extrême front, je pourrais dire, parce que plus qu'on s'approche du front, plus qu'il y a des zones, plus ça ressemble à la guerre, je vais dire ça comme ça. Soit c'est une base, mais c'est pas une base qui est prête à se défendre, c'est une base qui peut être bombardée, qui est par exemple fortifiée, mais qui est pas sous des tirs ennemis directement. Donc par exemple, mais plus qu'on s'approche, plus qu'on devient effectivement concrètement, il y a des tranchées, ça vient de plus en plus direct. On était dans ce secteur-là, donc on a pu aller parler, on a gagné la confiance, on a fini par être armé. Moi, j'étais à ce point-là, à ce moment-là, dans ce qu'on appelle la brigade normande. Donc, c'est une unité de. Par contre, j'ai eu un différend avec le commandant sur un détail, et un certain jour, j'ai décidé de quitter. J'avais déjà plein de contacts, donc j'avais l'embarras du choix, pour être bien franc, de quelle unité je joignais. Donc, j'avais des tireurs d'élite que je connaissais qui voulaient, qui depuis longtemps voulaient que je vienne les aider. Donc puisque j'avais eu le différend, très rapidement, j'ai pris un train et je me suis rendu jusqu'à Kiev. Et en chemin, c'est là que j'avais le premier anniversaire de mon fils, là, que j'ai pu assister à distance. Donc, ouais, c'était très spécial. Donc, je voulais, à première, quand la guerre approchait, parce qu'au courant du mois de février, on sentait tous que ça approchait, c'était pas certain que j'y aille parce que moi-même, je croyais pas que ça allait être aussi grand que ça. Je croyais, par exemple, que les Russes allaient envoyer leurs troupes au Donbass, occuper de force Donbass, l'annexer, ou un scénario un peu
ouais.
semblable à celui-là. Mais moi, je croyais pas personnellement qu'il était pour avoir une invasion tout azimut.
Toute l'Ukraine,
ouais. C'est passé. Ouais. Donc, voilà. Donc, j'étais à Kiev, j'ai rejoint les tireurs d'élite. Et cette unité-là a été impliquée à Irpin. Et c'est à partir de ce moment-là, donc, j'ai pu faire ce que j'ai eu à faire.
Mm-hmm. Est-ce que justement, voilà, bon, tu nous as décrit là ton parcours pour arriver enfin finalement à ce que tu arrives à faire, mais justement, tu as joint en tant que tireur d'élite, sniper, ou en tant que soldat fantassin de base, voilà.
Moi, j'ai même mon arme là à côté, là, ici. Donc, faut comprendre qu'à Kiev, la situation était moins bureaucratiquement difficile. J'ai appris beaucoup depuis que je suis en Ukraine, et une des choses que j'ai appris, c'est à quel point les succès sont souvent des initiatives locales. Parce que c'est une armée qui est encore, je pourrais dire, pas en formation, mais en apprentissage actif. Donc, il y a encore beaucoup de désorganisation. Il manque de clarté souvent dans les processus, etc.
Mais d'ailleurs, l'OTAN et les Canadiens sont en Ukraine depuis de nombreuses années pour les aider, pour les entraîner, pour les former dans bien des aspects.
Exactement. Donc, à Kiev, la situation était plus simple d'un point de vue administratif. Donc, c'était aussi simple que tu cognes à la porte et on te donne une arme. Donc, dans ce cas-ci, c'était des tireurs d'élite qui m'ont donné une arme. Mais j'ai parlé au commandant des tireurs d'élite, etc. Donc, c'était aussi simple que ça et j'ai eu une arme. J'avais pas toutes les armes à ma disposition et l'équipement parce que tout le bon équipement, il faut comprendre, il n'y en a pas en quantité infinie, mais il y en a en bonne quantité, mais le bon équipement est souvent déjà utilisé au front. Donc, c'est difficile d'aller chercher cet équipement-là et tu ne veux pas aller chercher l'équipement des soldats qui l'utilisent déjà. Donc, c'est pas si simple d'avoir du bon équipement. Par contre, j'avais quand même une arme de tireur d'élite, donc une très bonne arme d'ailleurs, une arme semblable à ce que j'avais utilisé en Afghanistan comme tireur d'élite, avec une optique Schmitt-Hohenbender allemande très, très, de qualité très, très élevée. La même optique que j'avais en Afghanistan d'ailleurs. Et pas exactement le même modèle, mais presque. Donc, calibre 3.38, etc. Donc, ça a été excellent. J'avais de l'équipement de protection. J'avais pas un casque. Je n'avais pas un casque qui pouvait, par contre, malheureusement, mais j'avais quand même des plaques de protection balistique. Mais c'était déjà, on pourrait dire, jouable. J'avais assez d'équipement pour pouvoir faire un certain travail, même si j'étais pas à ma pleine capacité.
OK. Et bon, tu as réussi à récupérer cette arme. Et tu disais, voilà, qui somme toute relativement similaire, en tout cas, que tu connais, voilà, avec ce que tu as eu
oui.
en Afghanistan. Donc, ouais, t'es pas perdu avec ça.
Voilà.
Concrètement, là, maintenant, est-ce que cette arme que tu as, on va le dire telle quelle, tu t'en es servi?
Ouais, ben, pas beaucoup, parce que j'ai eu certaines occasions, mais c'était des situations où, curieusement, il y avait des réfugiés, même dans le No Man's Land. pas nombreux, mais assez que, les fois où j'ai détecté des gens, j'ai pris la décision de ne pas tirer. Et c'était les bonnes décisions selon moi. Et les fois où j'ai détecté des Russes, c'était pas des situations où j'ai eu le temps d'engager. Par contre, j'ai pu les détecter, j'ai partagé l'information et avec l'artillerie, on a causé des pertes à l'ennemi. Donc, il y avait par exemple un véhicule, le véhicule qui a tiré le projectile, donc je montrais à l'écran, le projectile de 30 000 mètres. Donc, ce véhicule-là a été détruit. Il y a au moins le chauffeur a été tué, je sais pas pour les autres, mais le chauffeur a été tué et abandonné sur place. Le véhicule a brûlé. Un autre véhicule a été abandonné plus loin. Et il y a eu aussi des pertes dans l'infanterie ennemie qui occupait les édifices. Parce qu'il faut comprendre que tireur d'élite, le travail, ce n'est pas de simplement tirer, c'est surtout d'informer, partager l'information. Comme en Afghanistan, j'ai pu utiliser mon arme de multiples reprises. Par contre, la majorité des pertes qu'on causait, c'était tout simplement en dirigeant des frappes. Que ce soit l'aviation, l'artillerie, etc. Et la même chose se passe dans une guerre moderne comme en Ukraine. Hein. C'est pas comme dans les films. C'est très souvent on voit pas l'ennemi. On sait qu'il est par exemple en face de nous à par exemple 300 mètres. On sait qu'ils peuvent s'approcher de temps en temps et l'inverse. Quand il y a des échanges de feu, faut pas penser qu'on voit l'ennemi. Hein. Très difficile de voir l'ennemi à moins qu'il passe à l'attaque. Mais sinon, s'il est déjà en position, tout ce qu'on voit, c'est des balles sortir par exemple des fenêtres. On peut voir les obus dans le cas de l'obus de 30 000 mètres. Je me rappelle quand le char tirait vers nous, il tirait autour de nous, donc c'était vraiment comme une espèce de, ça ressemblait à des boules de feu.
Ouais.
C'était comme ça avait vraiment l'apparence là, d'une goutte de brûlante là, de feu qui se dirige à toute vitesse là, autour de toi. Avec des bruits assez, je pourrais dire, des détonations, etc. Mm-hmm. Donc, c'est assez violent. Et les tirs, souvent, c'est comme on voit les traceuses, mais on ne voit pas nécessairement le soldat parce qu'évidemment, en guerre, tout le monde a peur. Donc, tout le monde reste très, très, très planqué et caché. Et c'est ça la réalité, là. C'est pas un ennemi bien positionné, parfaitement identifié, qui va rester là toute la journée en attendant d'être détecté et abattu, là. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Et que justement, ça aussi, le fait qu'on le disait au début, voilà, que c'est une armée régulière qui est quand même bien entraînée a priori. On va en reparler justement des Russes, des fake news et de l'armée russe en troisième partie. Mais le fait que voilà, c'est quand même une armée qui est autre chose que ce que tu as vu avec les talibans ou avec les islamistes de Daesh. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas joué dans ce rôle-là?
Oui, faut s'adapter à son ennemi. Par exemple, les talibans tiraient très mal. OK. C'est arrivé à quelques occasions que les tirs étaient plus précis, mais règle générale, c'était les tirs me faisaient moins peur, je pourrais dire. Tandis que là, les tirs, souvent, étaient dans des. Par exemple, on pouvait occuper une position et quelques instants après, l'appartement, par exemple, ou une maison, peu importe, était détruit, là. Et de façon très violente, on aurait été probablement blessé gravement ou tué. Donc, c'est une guerre où il faut, je dirais 75% du travail, c'est de savoir se protéger au bon moment. Parce que, si on décide, par exemple, de tenir la position, peu importe, par exemple, on défend une position, donc on est proche des fenêtres, il va tout simplement avoir une. Tu vas tout simplement. Parce qu'il faut comprendre que dans une guerre comme ça, c'est pas nécessaire de voir l'ennemi. Souvent, tu vas savoir que l'ennemi est dans, par exemple, un édifice. Donc, par exemple, les Russes vont savoir qu'on est dans un secteur. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont tirer aléatoirement vers à peu près tout ce qui est suspect, les fenêtres, etc. Donc, même si tu es parfaitement caché, ça peut tomber sur toi. Donc, si à chaque patrouille, tu restes dissimulé parfaitement, à chaque fois, c'est un peu comme jouer à la roulette russe, pour ne pas faire un jeu de mots. Mais, donc, si à chaque patrouille, tu as une chance sur cinq que le premier au but te touche, parce que, par exemple, il y a cinq appartements dans cette maison, ben, à chaque fois, tu prends une chance sur cinq. Donc, si tu fais cinq patrouilles, c'est à peu près certain que tu vas y passer. Donc, il faut vraiment savoir se protéger et montrer de l'agressivité face à l'ennemi, parce que l'ennemi, il faut comprendre qu'il n'aime pas conquérir de vive force. Parce que prendre un pays en entier avec seulement de l'infanterie est extrêmement coûteux. D'ailleurs, dans la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des pertes étaient causées par la puissance de feu, l'artillerie, l'aviation, etc. Et d'ailleurs, la Normandie, on pourrait faire un parallèle, il y avait un blocage. Il y a eu le débarquement, la tête de pont, mais après ça, pendant des mois, il s'était bloqué. Et pour débloquer la situation, il y a eu ce qu'on appelle évidemment la percée d'Avranches. Donc, les Alliés ont complètement bombardé, dévasté une zone et l'exploitation. Donc, les soldats allemands n'ont même pas pu voir les Américains. Ils ont simplement été pulvérisés par les bombardements, la majorité d'entre eux. Et les troupes américaines ont exploité la brèche avec des forces mécanisées. Et c'est là que les Allemands ont retraité de presque tout le territoire français. Mais c'est un peu la même situation. Les Russes essayent de nous tuer à distance. Et s'ils sentent que tu es encore en force dans une position, le plus souvent, ils ne vont pas tenter de s'en emparer parce que c'est extrêmement coûteux. Un bâtiment peut être fortifié, il y a beaucoup d'angles morts. Si à chaque fois, il faut conquérir de vive force un bâtiment avec sa pleine capacité d'infanterie, si je peux dire, c'est extrêmement coûteux. Donc, de part et d'autre, on essaye souvent de causer des pertes avec la puissance de feu, tout simplement. C'est la même situation. Ça ressemble vraiment à la Deuxième Guerre mondiale, pour être bien franc, parce que j'aimerais faire une autre remarque. Les Russes ne sont pas sophistiqués comme combattants. Donc, c'est un pays qui est plutôt pauvre. Donc, c'est pas un pauvre, mais disons, économiquement, pas riche non plus. Donc, plutôt pauvre, sans être un pays pauvre. Mais ce n'est pas un pays économiquement prospère. Et cette, je pourrais dire, non-prospérité se reflète dans leur façon de combattre, parce qu'ils ont beaucoup moins d'équipements sophistiqués, par exemple, qu'une armée de l'OTAN. J'aurais beaucoup plus peur de faire face à une armée de l'OTAN. J'ai été dans des situations où si j'avais à faire face à des Américains, des Français, des Allemands ou des Canadiens, j'aurais été tué. C'est sans doute, probablement. Mais là, les Russes, on sentait qu'ils avaient moins cette capacité-là. Ils avaient aussi moins de compétences. Il manquait de finesse un peu. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui n'a pas. C'est un peu comme les arts martiaux, quelqu'un qui compte beaucoup sur la force de ses muscles, mais qui n'a pas beaucoup de technique. Ils ont quand même une certaine technique. Il faut pas non plus tomber dans l'autre extrême et penser que c'est des imbéciles qui savent pas du tout ce qu'ils font. Il faut les respecter quand même, mais ils ont beaucoup moins de finesse et de sophistication que j'aurais pensé. Donc, leur façon de faire, c'est de bombarder en quantité. Donc, ils vont souvent, par exemple, s'ils pensent que qu'une force ukrainienne occupe un bâtiment, ils vont bombarder le bâtiment des heures et tirer aléatoirement dans l'immeuble au complet, sans nécessairement essayer de détecter précisément l'endroit, etc.
Wally, on va faire une deuxième pause musicale et après on va parler un petit peu donc de chemin de tu nous as déjà d'ailleurs parlé pas mal. On va parler de cette armée russe et notamment aussi des différentes fake news, des fausses informations, des
Oui.
rumeurs. On fait cette pause et on se retrouve de suite
Parfait.
après.
Вражі бусурмани вішали на гак, глянувши востаннє на цей світ біленький, у смертну годину козак мовив так: хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Як вороги кляті нас на кіл саджали, як живце палили, у смолі пекли. Козаки у хата життя не благали, про долю країни думи їх були. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки. Хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки.
Voilà, de retour pour cette interview exceptionnelle donc avec Wally, donc tireur d'élite qui est actuellement en Ukraine pour aider d'ailleurs donc ce peuple ukrainien face à cette invasion du pays. Wally, tu nous parlais avant cette pause donc là de l'armée russe qui finalement est pas si on va le dire tel quel, pas si forte que ça. Est-ce que c'est quelque chose qui toi t'a surpris?
Oui.
Au vu des différents entraînements, des scénarios que tu as eu
oui,
même en
oui,
tant que
oui.
soldat, de voir que finalement, ben, c'est pas si top que ça finalement.
Exactement. Donc, j'ai eu plusieurs surprises. Par exemple, une des premières surprises que j'ai eues, c'est les déplacements dans le pays. Moi, j'avais un peu l'image d'une aviation russe qui peut-être pas avait la domination, la supériorité complète. Donc, pas la supériorité, mais la dominance. Donc, il y avait une certaine présence aérienne ukrainienne, mais je m'attendais à une présence aérienne plus musclée. Parce que, justement, je faisais face à la deuxième armée au monde. Donc, je m'attendais à, évidemment, aucun déplacement possible. Mais c'était pas le cas. Pendant qu'on s'est déplacé vers l'est sur des routes, on a entendu une fois un avion, si je me rappelle bien, qui bombardait un emplacement stratégique derrière. Mais c'était pas du tout, à un certain moment, on a même suivi un convoi de véhicules qui transportaient des véhicules blindés. Donc, on l'a suivi à distance parce qu'on avait peur qu'ils se fassent bombarder, justement, mais non, ils n'ont pas été bombardés. Et justement, ça m'a donné la puce à l'oreille que si les Ukrainiens faisaient ça, c'est parce qu'ils se sentaient en confiance de le faire. Donc, ça m'indiquait que la campagne d'interdiction russe n'était pas là. Donc, que les Russes, dans le fond, ciblaient beaucoup des cibles stratégiques, mais n'avaient pas une présence aérienne aussi forte que j'aurais pu penser. Et sur la ligne de front aussi, d'un point, l'aviation, je croyais qu'ils utilisaient de façon plus tactique. Par exemple, les avions de chasse. Donc, à certains emplacements, j'étais certain de me faire bombarder. Donc, je me rappelle, on dormait dans un bâtiment et je regardais au-dessus de moi, j'avais du béton et dans ma tête, j'avais des fortes chances de mourir enseveli là, sous les décombres parce que contre une armée de l'OTAN, ça aurait été probablement le cas. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai eu des surprises comme ça un peu. Mais ça paraît que la Russie manque d'argent. Donc, à long terme, c'est très bon les sanctions parce que ultimement, un pays pauvre ne peut pas mener une guerre moderne efficacement. Parce que tout ce qui est l'équipement informatique pour les armes guidées, tout ce qui est la recherche, parce que tu sais, un scientifique qui fait de la recherche sur comment avoir un missile, par exemple, anti-char efficace, ce scientifique-là doit être nourri, il doit, vous comprenez, on peut pas faire ça, on peut pas avoir une armée de scientifiques et d'ingénieurs si le pays est pauvre. Donc, un pays pauvre ou qui a mal en point comme la Russie, justement, ça paraît qu'il manque de ressources parce que, justement, leurs véhicules blindés, d'ailleurs, sont des cibles pour les missiles. On avait des armes anti-char, on avait des Panzerfaust allemands et des Enla britanniques. En fait, de fabrication suédoise, mais qui parce qu'il y a un partenariat, de ce que je comprends, entre les deux pour la fabrication de cette arme-là. Mais on avait des armes modernes. Et d'ailleurs, une petite note là-dessus. L'efficacité d'une arme moderne n'est pas seulement dans son utilisation, mais dans sa présence sur le champ de bataille. C'était évident que les Russes savaient qu'on avait des armes modernes parce que on les sentait beaucoup plus frileux et peureux. Par exemple, les chars d'assaut russes étaient difficiles à voir. Donc, on pourrait penser qu'un char d'assaut, c'est facile à détecter. Mais dans une ville, on les entendait tirer, ils se déplaçaient, mais ils ne s'exposaient pas nécessairement souvent parce qu'ils sentaient que sinon, nous allions les abattre et nous allions le faire parce qu'on avait des missiles proches. Mais puisqu'on les voyait pas souvent, c'était difficile de les engager. Mais par contre, leur efficacité était grandement réduite. Donc, souvent, ils ne pouvaient pas, par exemple, engager certains immeubles appartements dissimulés par d'autres parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer comme ils voulaient, on sentait qu'ils se déplaçaient un peu à distance. Donc, à cette distance-là, leurs optiques sont moins efficaces, etc., parce qu'ils sentaient qu'il y avait des armes antiaériennes dans le secteur, et c'était le cas d'ailleurs. Donc, c'est très important, hein, les armements. S'il y a des auditeurs, par exemple, des politiciens ou peu importe, qui écoutent l'entrevue, il faut vraiment qu'ils comprennent qu'envoyer des armements, c'est crucial, parce que sans armement moderne, ça nous aurait pris énormément plus de pertes. On ne peut pas gagner une guerre moderne sans, avec seulement le courage et vous, quand même, l'équipement moderne.
Est-ce que aussi quelque chose qui peut-être t'a surpris, c'est aussi dès le début, tu le disais finalement dès ton entrée en matière, finalement on dit voilà 20 minutes après ton arrivée, ça y était mort. Est-ce que un les fake news un de manière globale et deux aussi qui t'ont visé directement, est-ce que ça t'a surpris? Parce qu'on le sait, voilà, l'usine, je m'avance dans mes mots. La Russie a des usines à trolls, voilà, on le sait ça. Est-ce que toi, ça t'a surpris que dès le début, voilà, un, on te vise et on vise, voilà, toute cette propagande-là?
Ouais. Ben, en fait, j'ai été le premier, j'ai été le dernier à prendre ma propre mort. J'ai trouvé que c'était amateur comme façon de faire la propagande parce que c'est tellement évident que c'est facile à démentir par la suite que je trouvais ça un peu ridicule. Une propagande qui aurait été plus efficace, par exemple, ça aurait été, par exemple, d'insinuer que je faisais des crimes de guerre. Donc, que j'étais, par exemple, que je tirais des civils ou peu importe, que j'étais une espèce de sniper sanguinaire qui tuait par plaisir, puis qui, dans le fond, l'Ukraine était une autre guerre parmi d'autres. Ça aurait été une propagande beaucoup plus subtile et ça aurait été difficile de se défendre contre une telle propagande. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont utilisé une espèce de propagande extrêmement, je vais utiliser un terme, enfantine. Donc, très amateur. Donc, par exemple, que j'ai tué 20 minutes après, c'est ridicule. Par contre, je commence à comprendre un petit peu plus la façon de penser du côté russe parce qu'il faut comprendre qu'ici en Ukraine, il y a beaucoup de gens qui ont de la famille côté russe. Donc, c'est un peu comme si en France, on connaissait par exemple, je sais pas moi, en Suisse. Donc, imaginons que la Suisse serait un plus gros pays et que les deux pays seraient en guerre, ben, ou en Belgique, par exemple. Donc, il y aurait des gens qui se parleraient, des familles, des amis, etc. Souvent, il y a des conflits, justement. Il y a des groupes, des familles qui se sont séparées parce que les opinions se radicalisent de part et d'autre. Mais bref, les Ukrainiens sont en mesure souvent de m'informer sur comment pensent les Russes, qu'est-ce que font les Russes, qu'est-ce qui se dit sur les médias sociaux russes, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, d'après moi, les Russes sont tellement habitués de parler à des gens qui ne sont pas exposés à de la contre-information que c'est rendu extrêmement facile pour eux de dire n'importe quoi. Et bref, ils sont pas bons pour convaincre des gens comme en Occident, mis à part ceux qui sont de mauvaise foi en partant, mais en règle générale, la population moindrement critique va très rapidement voir le coup venir, comme on dit, d'une propagande aussi évidemment mensongère et bref et sans subtilité. Mais du point de vue du côté russe, j'ai tendance à penser que les gens croient rapidement ce qu'on leur dit, parce que c'est un peu la seule information qu'ils ont. Bref, c'est décevant un peu de voir que la propagande peut fonctionner comme ça. Par contre, la propagande fonctionne bien quand il n'y a pas de contre-information. C'est la conclusion un peu. Donc, en Occident, cette propagande-là ne fonctionne pas là, du moment qu'il y a un peu de sens critique là, dans l'auditoire.
Alors, justement, j'aimerais entendre de ta bouche, on en parle pas mal depuis le début, mais c'est vrai que tu es sur place, tu as vu beaucoup de choses. Alors, justement, il y a beaucoup d'informations et contre-informations. Voilà, on le disait sur les situations, on a vu là qui s'est passé. Donc, on parlait de Boutcha, qui, voilà, il y a des images qui ont été montrées, démontrées. Les Russes disent non, non, c'est des fausses images satellites, bon, etc. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire de,
Ouais.
justement, de ce que tu as vu
Il
là?
faut comprendre que nous, on avait, comme soldats, on est dans des zones isolées, donc on peut pas se promener et aller investiguer, etc. Donc, c'est souvent les journalistes qui, après coup, quand les combats sont finis, qui peuvent aller dans les zones. Par contre, moi, je n'ai pas vu ces crimes-là. On entendait parler, on avait beaucoup de sources. On savait que c'était de l'autre côté, donc c'était comme regarder le quartier d'à côté. Donc, par contre, on les voyait pas, évidemment. C'était peut-être à 2 ou 3 kilomètres de distance. On a appris après que ça l'a confirmé. Au début, je pensais que c'était de la propagande, de toutes ces informations-là, parce que je les sentais un peu intenses. Mais après ça, on a vu les images. Là, des personnes pourraient dire que ça pourrait être inventé. Par contre, j'aimerais dire ceci, ça c'est mon opinion sur le dossier. Il y a 2 mois, il n'y avait pas de Russes à Boutcha et Irpin et il n'y avait pas de cadavres ukrainiens. Donc, c'est comme s'il y avait une certaine connexion entre les deux événements, pour faire un peu d'humour noir, mais bref, je doute fortement que les Ukrainiens, entre eux, ont décidé de tuer des enseignants ou des mères ou des enfants ou toutes sortes de gens comme ça pour faire un spectacle. Voilà. Donc, je pense que c'est assez évident que ça provient des Russes. Les Russes étaient là. Et quand ils ne sont pas là, la paix règne. Donc, voilà. Mais ce qui m'a surpris avec les Russes aussi, c'est que, par exemple, quand j'étais contre l'État islamique, donc il y avait une espèce d'opposition idéologique très forte entre moi et mon ennemi. Quand j'ai commencé le conflit en Russie, je voyais ça un peu comme la Première Guerre mondiale, donc une espèce de conquête territoriale où on a un agresseur qui veut un territoire et une victime, l'Ukraine. Victime qui n'est pas parfaite, mais qui est quand même une victime qui ne mérite pas de se faire attaquer de cette façon-là. Et je sentais que c'était un peu, c'est ça, une guerre un peu impérialiste, mais sans idéologie. Par contre, j'ai peu à peu appris que les Russes sont malheureusement remplis de haine. J'ai vu beaucoup de ce qui se dit sur les médias sociaux, par exemple, etc. Les Ukrainiens m'en ont parlé. J'ai moi-même vu des extraits de ce côté-là. Et malheureusement, les Russes ont beaucoup de haine. Il faut le dire, c'est une guerre qui est sale. Okay? Souvent, j'entends des comparaisons. C'est assez étrange d'entendre ça, mais il y a des survivants ici. Par exemple, je connais quelqu'un que ses grands-parents ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale et ces personnes-là disaient, et là, je vais vous dire ce qu'ils m'ont dit, même si ça peut sembler étonnant, et ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Ils m'ont dit que les nazis étaient moins pires que les Russes. C'est ce qu'ils m'ont dit, les survivants. Et c'est étonnant d'entendre, parce que qu'est-ce qu'on... apparemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, les Allemands prenaient le contrôle et apparemment, les soldats réguliers étaient en général corrects. C'est ce que les gens disent ici. J'ai entendu ces histoires-là plusieurs fois. C'est étonnant à entendre, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de crimes et ça, faut pas faire semblant qu'il n'y en a pas eu. C'est évident, les SS, etc.
C'est peut-être pour rejoindre ce qu'on disait aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris finalement dans l'armée russe aussi, que le fait que voilà, ça reste une armée régulière qui suit quand même les conventions de Genève, a priori, toi, qui suit les règles d'engagement, tout ça, et que malgré ça, on voit tout ce qui sort maintenant?
Non, mais en fait, maintenant, je connais mon ennemi. Malheureusement, c'est un ennemi qui est sauvage et qui, en grande partie, ne respecte pas les règles. Je ne sais pas quoi dire de d'autre. C'est triste. Donc, c'est un ennemi cruel, donc qui mérite encore plus d'être combattu.
Peut-être juste avant qu'on conclue, Wally, toi, comment tu perçois la suite des choses, un, pour l'Ukraine? Bon, je vais pas faire de généralité là, mais c'est vrai, c'est compliqué d'avoir une boule de cristal, mais comment tu vois la suite pour l'Ukraine, et comment toi tu vois aussi ton programme à toi de ce que tu vas faire là, au cours des
Ouais.
prochaines
Donc, c'est
semaines?
clair qu'on se dirige vers une certaine victoire, là. Donc, le moral est au top. Ici, je vois beaucoup de sourires. Je vois un moral très élevé. Dans mon groupe, on n'a pas eu beaucoup de pertes. Donc, c'est excellent. Dans d'autres unités, on a eu plus de pertes, mais le moral est très élevé. En fait, je connais des soldats ukrainiens qui n'ont vu aucun combat et qui brûlent d'envie d'aller faire leur travail. Okay? Donc, c'est un peu le moral ici, là. L'état d'esprit, le moral est très élevé. C'est un moral de contre-offensive. Donc, il faut comprendre. Moi, j'aime souvent dire qu'il y a 2 façons d'avoir la paix. La première, c'est une volonté pacifique. Donc, par exemple, l'Allemagne et la France ne se combattent plus parce que c'est maintenant des. Même si, par exemple, un gouvernement voulait, bon, par exemple, mettons, l'État français voudrait attaquer l'Allemagne, je pense pas que les Français seraient d'accord avec ça, même si c'était possible de le faire. Et l'inverse, où les États-Unis pourraient prendre le contrôle du Canada très facilement, évidemment, mais je ne crois pas que ça serait une idée qui serait supportée par la population parce que il y a une espèce de volonté pacifique. L'autre façon d'obtenir la paix, c'est un rapport de force. Donc, malheureusement, entre l'Ukraine et la Russie, c'est le cas. Donc, la seule chose que les Russes, au début, j'aurais dit Poutine, mais maintenant, je dis les Russes, que les Russes, en général, comprennent, la seule chose qu'ils comprennent, c'est un rapport de force, que ce soit par des sanctions, l'arme nucléaire, par exemple. Donc, si on n'avait pas l'arme nucléaire en Occident, je ne crois pas que ça serait très beau, ce qui se passe, OK? Donc, la dissuasion nucléaire joue un rôle parce que ça fait partie du rapport de force, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et maintenant, sur le terrain, dans ce conflit-là, le rapport de force, clairement, a été en faveur de l'Ukraine. Et on voit que ça a été nécessaire, mais que c'est aussi ça qui permet à la paix de revenir. Donc, une paix réaliste. Je crois qu'il faut, moi, c'est mon opinion. Donc, je veux pas dire aux Ukrainiens quoi faire, mais je comprends que c'est complexe. Donc, par exemple, la Crimée, peut-être qu'il y avait des zones pro-russes. Par contre, ça a été un pays, ça a été une zone qui a été prise de force pendant qu'il y avait une crise intérieure en Ukraine, une espèce de coup d'État, on va dire. Bref, pas un coup d'État, mais bref, une espèce de, bref, une crise intérieure. Et en plus, il y a eu un référendum organisé par une dictature qui occupait le terrain. Donc, je pense pas que c'est une façon très légitime. Par contre, personnellement, j'étais prêt à dire, OK, l'Ukraine, la Crimée, on peut laisser ça. C'était mon opinion personnelle, donc je ne vais pas dire aux Ukrainiens quoi penser, mais je crois qu'une paix doit être réaliste. Si on cherche une paix qui est, je pourrais dire, moralement parfaite, on va souvent ne jamais l'obtenir. Donc, dans ce cas-ci, peut-être qu'une paix réaliste, ce serait d'avoir peut-être le cédé de la Crimée et le Donbass. Par contre, si on dit qu'on cède parce que ceux qui sont un peu au courant de la situation comprennent que la Russie cherche maintenant à relier la Crimée et par Mariupol étant une espèce de je pourrais dire de verrou pour cette zone-là. Donc, relier le Donbass à l'est et la Crimée au sud. Donc, si on laisse faire ça aux Russes, ils vont être plus forts pour une autre agression plus tard. Donc, il faut toujours penser en termes de rapport de force avec les Russes, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Il ne faut pas penser en termes de bonnes intentions ou peu importe. Et voilà, donc est-ce que les Ukrainiens vont parce que les Ukrainiens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Oui, ils ont gagné jusqu'à maintenant plusieurs batailles, mais ils ne peuvent pas non plus faire tout. Donc, est-ce qu'on va assister à une paix réaliste? Oui. Est-ce qu'on va fortifier l'Ukraine dans le futur? Est-ce qu'il va y avoir une paix signée qui va reconnaître l'Ukraine et le Donbass, etc., de part et d'autre, et qu'on va fortifier tellement, parce que je pense que la paix aussi de l'Ukraine passe par une fortification, là. Il faut que l'Ukraine soit encore plus imprenable qu'elle l'a été. Dans le passé et présentement. On a les ingrédients, hein, parce que les soldats ukrainiens sont extrêmement courageux. J'ai été avec des soldats incroyables. J'ai une réputation d'être moi-même très courageux par les guerres passées, mais ici, j'étais avec des soldats qui sont, je dirais, aussi courageux, là, et sinon plus, qui sont exceptionnels. Donc, ils sont aussi techniquement compétents, malgré qu'ils ont quelques lacunes. Ils ne se sont pas encore, évidemment, au niveau autant d'un point de vue technique, mais d'un point de vue courage, ils surpassent, selon moi, la majorité des armées de l'OTAN. Mais bref, on est sur la bonne voie. Malheureusement, ça va encore coûter des vies humaines, mais c'est comme ça.
Et maintenant, toi,
Oui,
qu'est-ce que tu vas faire?
je suis ici pour aider. Donc, tant que j'ai pas rempli mon devoir, on reste en Ukraine et on continue le combat.
Et ça, à quel moment tu vas déterminer
J'ai pas
mon
de date,
devoir est
hein.
fait?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'imagine que c'est une question de feeling. Par exemple, là, en ce moment, on s'ennuie un peu, donc il va peut-être y avoir des opérations qui s'en viennent, etc. Donc, mais si je sens que je suis plus nécessaire, moins nécessaire, ou etc. Oui, là, ce sera peut-être un moment de penser à m'en retourner. Mais il faut comprendre que c'est pas parce que on s'en va du pays qu'on ne peut pas revenir. Moi, je vois ça un peu aussi comme ça. Donc là, ça serait encore plus facile de revenir parce que là, j'ai tous les contacts, j'ai l'expérience aussi, etc. Donc voilà, c'est un peu ma vision là. Je crois que ben, cette guerre-là s'en va dans la bonne direction. La paix va peut-être être signée très rapidement. Hein. Peut-être que dans une semaine, il va y avoir une paix signée. Parce qu'on voit qu'il y a une progression. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais on surveille ça.
Si, pour conclure, Walid, là, si les gens qui nous écoutent veulent se renseigner un peu sur toi, sur ce que tu fais, sur ce que tu as fait par le passé, comment on fait pour te suivre?
Oui, donc sur Facebook, j'ai un blog, La Torche et l'Épée. Donc, il suffit de rentrer La Torche et l'Épée dans la barre de recherche. J'ai aussi son équivalent, site web, torcheepée.com. Par contre, il est beaucoup sollicité, donc souvent, il tombe en panne. Je travaille en informatique, mais j'ai juste pas le temps ici et toutes les ressources pour le mettre à niveau. Mais il est souvent disponible aussi. J'ai aussi un site où je présente mes projets, par exemple, livrewally.com, livre au pluriel. On peut trouver mon livre de tireur d'élite et mes autres projets, etc. Je sais que c'est un peu le bordel, tous mes sites, etc. J'ai pas eu le temps de régler ça, mais c'est comme ça. Donc, il y a plusieurs endroits là où on peut me contacter aussi, puis en apprendre plus.
Super. Écoute, Wally, je pense que ça a été une interview absolument passionnante. Donc, vraiment,
Oui,
merci beaucoup
merci.
d'avoir
Ça fait
pris
plaisir.
Merci d'avoir pris ce temps pour nous parler de ton parcours, de toi, de ce que tu as vu, de ce que tu as fait, pour expliquer vraiment aux gens ce qui se passe vraiment là-bas de première main. Donc, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation.
Merci. Bye.